Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Deux questions ce matin après l'annonce du cessez-le-feu donc au Moyen-Orient. Quand est-ce que le détroit d'Ormuz sera vraiment débloqué? Et quand verrons-nous les conséquences à la pompe dans les stations-service? On va tenter de répondre à ces questions. C'est dans ce contexte international qu'une nouvelle hausse du budget des armées sera annoncée dans la matinée, on va la détailler. Et dans ce contexte aussi que les ex-otages Cécile Kohler, Jacques Paris sont attendus en France, ceux qui ont été retenus en Iran pendant 4 ans.
On surveille, comme le monde entier, ce qu'il se passe ce matin dans le détroit d'Ormuz.
Oui, on s'attendait à une nuit terrible au Moyen-Orient. Donald Trump avait promis l'enfer. En fait, les États-Unis et l'Iran ont donc convenu d'un cessez-le-feu de 2 semaines. Sans doute des discussions dès la fin de semaine au Pakistan. Et d'une réouverture également du fameux détroit d'Ormuz dont on parle depuis un mois, où sont censés transiter 20% du pétrole mondial. Célestin Bougère, vous surveillez la situation pour RMC depuis le milieu de la nuit. Est-ce qu'on sait quand et comment ça va se passer?
Eh bien, déjà, les Iraniens vont promis d'assurer dans les 2 prochaines semaines les passages des navires en toute sécurité par le détroit en coopération avec les forces armées du pays. Donald Trump a lui annoncé ce matin que les États-Unis allaient aider à mettre fin à la congestion dans ce point de passage stratégique pour le commerce mondial. C'est par là que de nombreux navires passent pour approvisionner l'Europe en pétrole. Et depuis le début du conflit, le régime iranien bloque ce détroit, ce qui crée cette flambée des prix du carburant ici en France. Alors les marchés ont tout de suite réagi positivement à l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz, moins de 15% pour le prix du baril de pétrole. On est repassé en dessous des 100 dollars. On peut donc s'attendre dans les prochaines semaines à voir les prix à la pompe baisser légèrement de quelques centimes au litre. Mais il faut rester tout de même très vigilant. Pour l'instant, quand on regarde sur les radars, les pétroliers ne s'aventurent pas encore dans le détroit. Il y a encore plus de 3000 navires bloqués dans cette zone. En théorie, il y en a un peu moins de 200 qui peuvent traverser le détroit chaque jour. Et l'Iran devrait en plus de ça privilégier les pays qui n'étaient pas engagés dans le conflit aux côtés des États-Unis et Israël. Donc pour retrouver un trafic normal, il faudra attendre au moins 2 semaines.
Alors cette baisse des prix à la pompe qu'on verra peut-être d'ici une semaine, effectivement, c'est ce que dit un spécialiste des matières premières ce matin sur RMC. Mais on sera encore loin des prix que payaient ces automobiles. Automobilistes interrogés ce matin par Romain Houck pour RMC, vous allez les entendre dans une station-service de la Porte d'Italie à Paris.
Franchement, on espère vraiment que l'essence ça va baisser, puisque là ça commence à devenir un peu compliqué. Ça fait à peu près depuis 3 semaines maintenant que ça dure. Ça commence à peser.
40 litres, 80 balles, c'est monstrueux. Quoi. Espérons-le, mais ça prendra du temps avant qu'ils baissent les prix. Les connaissant, on est sûr que ça va prendre au minimum 15 jours, 3 semaines, parce qu'ils vont se faire du beurre en attendant.
Ça va redescendre, mais pas comme avant. Avant, on était à 70, je pense qu'ils vont laisser ça à 90, à 95.
Le monde entier attend que les prix descendent, donc forcément, je pense qu'il y aura une chute. Et ça aidera sûrement beaucoup de Français à au quotidien, aller au travail, à aller voir la famille, faire les courses, parce que ça coûte quand même quelque chose.
Alors à l'instant, l'UFIP, les syndicats des pétroliers, dit que les prix des carburants pourraient baisser de 5 à 10 centimes. Très rapidement, on en parlait ça, tiens, hier matin, concernant les avions, l'approvisionnement en kérosène, dont les prix ont doublé depuis le début de la guerre, et bien ça mettra des mois avant de revenir à la normale, ça c'est ce que vient de dire l'Association internationale du transport aérien, il y a tout le monde qui réagit là ce matin, et c'est dans ce contexte qu'un conseil de défense va démarrer à 8h30, donc très bientôt à l'Elysée. Thomas Becker du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Il était annoncé avant le cessez-le-feu, il est maintenu, il sera suivi d'un conseil des ministres durant lequel une nouvelle hausse du budget de l'armée doit être annoncée.
Oui, pour 2026, le budget de la défense est porté à 57 milliards d'euros. C'est simple, c'est le double par rapport à celui de 2017, il y a 10 ans. Dans la programmation jusqu'en 2030, des objectifs ciblés, d'abord les munitions, pour elles seules, 24,5 milliards d'euros. Bombes, missiles, obus, un choix précipité par le retour de la guerre traditionnelle, conventionnelle en Ukraine et au Moyen-Orient, après des décennies de réduction progressive et organisée du stock de munitions en France. Les fonds permettront aussi de renforcer la lutte anti-drone, la défense solaire et le renseignement dans l'espace. Pas de changement en revanche sur le nombre de soldats ou d'engins militaires, pas de commandes supplémentaires de Rafale par exemple. Au total, si on reprend les chiffres, 449 milliards d'euros sont prévus pour les armées sur la période 2024. 2024-2026. 2030. Pour sa dernière année à l'Élysée, Emmanuel Macron veut que la France soit prête, d'ici 3 ou 4 ans, à faire face à un engagement majeur, en soulignant toujours la menace représentée par la Russie. Ce projet de loi sera donc présenté dans 2 heures en Conseil des ministres. C'est plus tôt que prévu. Sébastien Lecornu s'est justifié ainsi devant l'Assemblée nationale il y a 2 semaines. Nous ne pouvons pas attendre.
Et on attend aussi à l'occasion de ce Conseil des ministres la présentation du projet de loi d'urgence agricole qui est censé répondre à la crise que traverse le secteur en facilitant notamment l'accès et le stockage de l'eau pour les agriculteurs. Alors ça, ce sera évidemment une des images, si ce n'est l'image de la matinée, le retour en France de Cécile Coller et de Jacques Paris, les deux enseignants qui ont quitté l'Iran, où ils étaient retenus depuis 4 ans, et qui vont atterrir sans doute à Roissy dans la matinée. Donc le soulagement est immense pour leurs proches, qui ne s'attendaient pas à ça pendant la guerre. L'avocate des familles, Karine Rivolan, était sur RMC un petit peu plus tôt ce matin sur RMC. Écoutez.
Généralement, ce qui se passe pour les otages, c'est qu'ils ils sont accompagnés aussi médicalement pendant un temps, ce qui permet d'avoir une sorte de sas de décompression avant de rejoindre, on va dire, une vie normale. Ils vont bien, ils vont avoir besoin de temps pour se reconstruire, et ils vont avoir besoin effectivement de calme et de sérénité, parce qu'on sait aussi que s'agissant des otages, quand ils reviennent sur le territoire national, c'est également un choc important, la libération.
À 8h06 sur RMC, sachez que la taxe sur les petits colis n'a rien changé. On vous révèle ce matin sur RMC que les ventes du géant Chine ont augmenté de 17% entre février et mars, d'après les données de l'application Joco. En fait, le géant chinois contourne la taxe qui est en place depuis un mois en France en faisant atterrir ses avions de cargo en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays qui n'appliquent pas encore de taxes sur ces fameux petits colis. Ça, c'est le grand rendez-vous du jour en football, le quart de finale de Ligue des Champions de Paris contre Liverpool, 21h au Parc des Princes. RMC, il sera dès 18h avec l'émission notamment Rotten sans flamme pour ne rien rater de ces retrouvailles entre ces deux clubs, Paris-Liverpool, qui s'étaient déjà croisés l'année dernière. Retrouvailles aussi avec Hugo Ekitike, l'attaquant français qui brille désormais à Liverpool après un passage raté, on peut le dire, dans la capitale, Valentin Jamin.
Oui, en un peu plus de 2 ans, son statut a radicalement changé. Titulaire à Liverpool, Hugo Ekitike n'avait marqué que 4 buts en 33 matchs à Paris, en étant un remplaçant, se souvient le milieu Vitinha.
Malheureusement, c'était pas le bon contexte pour lui, mais heureusement, il a tourné les choses. C'est un gars fantastique, j'ai bien aimé, il a beaucoup de qualités, ça se voyait à cette époque déjà.
Écarté de l'équipe plus de 5 mois, le Français avait fini par rejoindre Francfort en janvier 2024, exfiltré sans avoir réussi à s'imposer parmi les stars à 20 ans, ce que regrettent ses supporters. Parisien.
Il ne pouvait pas s'éclater quand on avait Messi, Neymar et Mbappé. J'étais sûr qu'il allait devenir un grand joueur.
Il n'a pas pu exercer son potentiel à 100%. C'est plus une peur pour nous, car il peut en mettre un, voire deux.
Cette saison, le buteur assume son transfert à presque 100 millions d'euros cet été. 17 buts, 6 passes décisives et son coéquipier Florian Wirtz espère encore le voir briller.
Je pense que ce sera spécial pour lui. Il a joué ici, j'espère qu'il pourra en profiter, peut-être marquer. C'est ce que je lui souhaite.
Une belle performance ce soir consoliderait sa place pour la Coupe du Monde après des premiers pas réussis chez les Bleus.
Au lendemain des victoires, donc ce match de Paris ce soir, au lendemain des victoires du Bayern 2-1 chez le Real et d'Arsenal 1-0 chez le Sporting. Et tiens, ce matin, le PSG partage la une des journaux avec Paul Sexas, la pépite du cyclisme qui a remporté les 2 premières étapes du Tour du Pays Basque en attaquant à 26 km de l'arrivée quand même. Il y a 2 minutes d'avance déjà au général sur des coureurs qui ont déjà fait podium sur le Tour de France. Très très grosse performance, on verra ce qui nous réserve sur la 3e étape aujourd'hui dans la région de Bilbao.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08 l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel. Le cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran a créé immédiatement un soulagement sur les marchés financiers.
Les marchés n'ont entendu qu'une seule nouvelle, Apolline, hier soir, la réouverture du détroit d'Ormuz. Et donc, ça n'est même pas finalement du soulagement, c'est de l'euphorie, parce que on s'était quitté hier soir sur un scénario de quasi Troisième Guerre mondiale. Et en fait, on arrive à ce soulagement. Les marchés même ont été surpris, ce qui leur arrive pas souvent. Mais le résultat est spectaculaire. Les cours du pétrole ont chuté. On était à $112 le baril de Brent hier matin, $95 ce matin. Toutes les matières premières dont la circulation était entravée recule aussi fortement. Le soja, le blé, le maïs chutent à leur plus bas niveau depuis un mois. L'indice Nikkei à la bourse de Tokyo qui lui a quasiment clôturé hein, avec le décalage horaire, plus 5%. Les marchés européens vont ouvrir quasiment eux aussi entre 4 et 5% tout à l'heure. Et enfin, dernière bonne nouvelle, les taux d'intérêt à long terme qui s'étaient quand même tendus ces dernières semaines ont eux aussi assez nettement reculé pour l'instant.
Quand est-ce que ces bonnes nouvelles, comme vous dites, vont se traduire à la pompe ?
Ah bah, là, sur les prix des carburants, il y a quand même un mouvement spectaculaire parce que c'est pas du brut hein, qu'on met dans nos voitures. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix de l'essence et du gazole. Sur le marché de Londres, celui qui compte pour le prix de référence mondiale du gazole, hier soir, 23h45, on est à 1,24€ le litre. À 3h du matin, on tombe à 1€. 1€, on a perdu 24 centimes sur le litre sur le marché européen en l'espace de quelques heures. Un tiers de la hausse qu'on avait connue depuis le début de la guerre a déjà été effacée. Donc, dans les prochains jours, on aura une baisse sensible des prix à la pompe. Allez, on peut se fixer un objectif d'une quinzaine de centimes d'ici le week-end prochain, ce qui serait quand même assez nouveau. Sur l'inflation, ça veut dire qu'on aura une petite vague, finalement, qui est déjà dans les tuyaux avec le trajet plus cher, l'énergie plus chère sur avril-mai.
Mais normalement, une vague, ça veut dire que ça redescend.
Exactement, c'est une vaguelette. Ce sera une vaguelette. Les taux d'intérêt, ça c'est la bonne nouvelle. Vous savez qu'ils étaient en train d'augmenter. Ça commençait à mordre sur la reprise de l'immobilier. Bah, ça va être un soulagement aussi. Puis celui qui est content, c'est l'État. Parce que pour les finances publiques, tout ça est aussi très bon. Ils se préparaient un petit chèque pour les ménages modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler.
Vraisemblablement, ce chèque n'aura pas ne verra pas.
Il va rester dans les tiroirs pour le moment. Donc oui, pour le moment, c'est une bonne nouvelle. Après, attention, est-ce que tout ça, la circulation dans le détroit
va
reprendre ?
Comme le dit Donald Trump, c'est temporaire.
C'est temporaire.
Et on verra évidemment si c'est confirmé.
Mais c'est quand même un énorme soulagement.
Les prix du jour, alors ?
Alors, le samplon 95, on est à 2,01€. On est stable depuis plusieurs jours. Je ne vous donne pas les chiffres du gazole pour une raison simple. C'est que vous savez, avec le relèvement du plafond dans les stations totales de 2,09 à 2,25, on a 3000 stations dans lesquelles les prix augmentent fortement.
Mécaniquement,
donc si je vous donne le prix d'aujourd'hui, par exemple, on est autour de 2,35, alors qu'hier on était à peu près à 2,28. On est entre 2,35 et 2,40, mais ça n'a pas de sens. Donc je vous redonnerai demain.
On attend demain.
À partir de demain, on aura finalement des comparatifs plus intéressants.
Et ce que vous nous dites donc, c'est qu'on peut espérer d'ici quelques jours
absolument
une baisse de 10 à 15 centimes le litre. Merci Emmanuel, il est 8h12.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous, dans un instant c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. À 8h30, notez-le, l'invité du face-à-face ce sera l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jean-Paul Paloméros. Comme le disait Emmanuel à l'instant, on s'est quitté hier soir sur un scénario de quasi-guerre mondiale. On se réveille ce matin avec un cessez-le-feu. Que faut-il en attendre? Réponse donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura face à Canteloup. Comme tous les jours, Nicolas Canteloup est en direct sur RMC à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est là avec nous, Arnaud Demanche, 8h15 sur RMC. Salut Arnaud.
Tous les jours et avec tellement d'affection. Oh, en plus, ça
c'est
va.
C'est de l'amour.
Ça n'est que de l'amour ce matin. En plus, c'est pas une mauvaise journée qui commence. Ouais. C'est cool. Il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale.
Ouais.
Il fait beau. C'est chouette. En plus, Géraldine Demory vous l'a dit, hein, il va faire chaud cette semaine. Mais alors, attention, comme on le disait toujours à Claude François, en avril, ne dénude pas un fil. Allez. Sinon, l'actualité, c'est l'Iran. L'Iran qui existe toujours ce matin. Hier soir, c'était pas gagné. Donald Trump avait tweeté « Une civilisation entière s'apprête à disparaître ce soir ». Et finalement, il a accordé un nouveau délai. Comme à chaque fois, il dit « c'est ce soir, c'est promis, c'est ce soir ». Et au final, il décale finalement de 15 jours. C'est Mélania qui lui a appris la méthode. Ça fait 30 ans qu'elle lui dit « oui, ce soir, on va coucher ensemble, c'est promis ». Oui, c'est ce soir, c'est sûr, c'est ce soir, c'est promis. Et à 2h du mat, elle lui redonne un nouveau délai de 15 jours. Et ça fait 30 ans qu'il attend, tu m'étonnes qu'il soit nerveux. Donald Trump avait menacé de détruire des ponts, des centrales électriques. C'est le balavoine américain. Et au final, il recule. Ce qu'on pouvait déjà sentir lundi à sa conférence de presse, il avançait, il reculait, il avait expliqué que l'armée iranienne était anéantie, qu'ils n'avaient plus rien, mais qu'il n'allait pas non plus envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz parce que c'était trop dangereux. Franchement, faudrait savoir, quoi. J'ai gagné, mais j'ai peur d'affronter les autres. Mais j'ai gagné, mais j'ai peur d'affronter les autres. À la fin de la conférence de presse, le traducteur de BFM, il n'en pouvait plus. Il a voulu s'immoler par le feu, mais Namias lui a dit « Non, non, au prix où est l'essence, t'es gentil, mais non, on n'a pas les moyens. » Bref, cessez le feu.
Alors, c'est le Pakistan qui l'a négocié. En fait, je vais vous raconter, il y avait un dîner entre Trump et des officiels iraniens dans un resto. Et il y a un gars qui s'est pointé avec un bouquet de fleurs, qui a dit des fleurs pour vous. Et Trump, il a fait oh, merci le Pakistan, tout attendri. Et c'est comme ça que ça s'est résolu.
C'est comme quoi,
c'est le pouvoir des fleurs. Et alors, Trump revendique une victoire totale après 40 milliards de dollars, des prix du pétrole multipliés par deux, une économie mondiale à l'arrêt et une diplomatie américaine en lambeaux. L'Iran est enfin débarrassé du régime des mollahs.
Ah non.
Si, enfin, un mollah, le plus vieux, celui qui allait mourir dans 6 mois de toute façon, c'est l'euthanasie la plus chère du monde.
Le pétrole a donc baissé, mais les prix du carburant restent hauts. Ils continuent d'impacter le pouvoir d'achat des Français.
Oui, il faut faire baisser les prix. Alors là, même les stations-service sont en panique. Comment on va tenir? Les gens viennent moins. Comment on va faire des sous? Va falloir faire du bénéfice ailleurs. Ils ont trouvé, par exemple, les toilettes de stations-service ne seront plus nettoyées que tous les 15 jours. Alors qu'actuellement, on l'a tous constaté, c'est une fois par semaine. Pareil pour l'alimentation. Mathieu, vous qui aimez la grande cuisine, quand vous achetez votre déjeuner en station-service, bon, vous arrivez à la boutique Total.
Normal.
Vous dites, chef, quel est votre plat signature? Et vous achetez un Twix à 18 euros, voilà. Un café à 9 euros, un sandwich triangle à la demi-tranche de saucisson, 34 euros. Et ben maintenant, ce sera plus cher. C'est fini le bon vieux temps. Pensez bien à casser votre PEL avant de prendre la route. De toute façon, je trouve qu'il y a un audit à faire sur les stations-service. Je comprends pas qu'elles fassent des sous avec ce qu'elles vendent, les stations-service. Il y a des magazines Top Santé de 2005, vendus par l'eau de Troyes. Il y a des livres photos de Johnny. Il y a des saucissons géants d'1m50 qui prennent la poussière depuis 3 semaines.
C'est vrai.
Il y a des cendriers en forme de moto qui roulent sur des crânes. Qui achète ça? Il y a des mugs avec des prénoms, mais jamais le tien.
Oui.
Et des produits régionaux made in China. Et enfin, des manuels découvertes de la lithothérapie. Oui. Qui achète ces saloperies, quoi? On ne sait pas. Et ces endroits, ils sont toujours debout quand même, je suis sûr qu'ils blanchissent l'argent de la drogue.
Ça doit être ça.
C'est la diesel mafia.
Très bon.
Eh oui. Non mais c'est bossé.
Alors Maël de Calan, le président du conseil départemental du Finistère, est en croisade contre les bénéficiaires du RSA qui abuseraient. Il cible notamment une catégorie assez inattendue, les druides.
Oui, les druides. Ah. Alors, il n'y a pas d'argent magique, on le sait,
c'est
mais
bon
les
ça.
Druides trichent au RSA. Bravo Panoramix, alors, vraiment bravo. Panoramix, il est tombé dans l'argent magique quand il était petit.
Voilà.
Alors ça fait gueuler la fraternité des druides. Et donc, il y a
non, mais parce que c'est ça l'information, c'est qu'il y a une fraternité des druides.
Qui a un nom officiel en plus, je sais plus ce que c'est, mais ça compte entre 250 et 300 druides. C'est une bonne situation, ça, druide? Eh ben, manifestement pas, parce que sinon, ils trucheraient pas au RSA. À quoi ça ressemblerait une grève de druides? Madame, monsieur, bienvenue sur France 3 Bretagne. Et on va parler de la météo. À quel temps s'attendre en Bretagne, Géraldine de Morlaix? Eh bien, à de la pluie, Yannick Lemoulec. Oh, super. Et la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine, il y aura de la pluie. Eh bien, merci, Géraldine de Morlaix. Dans l'actualité de ce lundi, les druides sont en grève. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Hakim, le fils du forgeron, est-il venu vous chercher, Yann Le Gallec?
Oui, tout à fait, puisque dans la vallée de Dana, les druides touchent le RSA.
On sort de mon humeur, Géraldine de Morlaix. Ah ouais. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Bon, on lui fera demain.
Merci Arnaud de Manche. Il est 8h21. Raph est avec nous en direct de Mâcon. Bonjour Raph.
Et bonjour tout le monde.
Comment ça va Raph?
Ça va super bien, grand soleil.
Et les enfants?
Ils vont bien aussi.
Bon, Raph, conducteur de convoi, justement, l'accident terrible hier, rarissime heureusement, mais sur ce passage à niveau dans le Nord, convoi exceptionnel, TGV. Vous qui êtes conducteur de convoi, dites-nous votre expérience.
Les passages à niveau, pour moi personnellement, c'est toujours un moment un peu stressant. Il y a, avec nos remorques qui sont extrêmement basses, on a la possibilité des fois de s'accrocher dans les rails. Donc c'est pour ça qu'avant on s'arrête, on essaye de lever les remorques. Après on a des problèmes de hauteur avec les caténaires qui sont des câbles électriques à nu. Mais tout ça, il y a des règles. Donc tout à l'heure l'auditeur Bruno il en parlait. Il y a les règles. En fait nous on doit passer les passages à niveau en 7 secondes. Au-dessus de 7 secondes, il faut des consignations avec la SNCF. Donc c'est des rendez-vous, c'est extrêmement de l'argent. Souvent c'est la nuit. Et après il y a aussi les règles avec les hauteurs, 4,80 m. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Moi, ce qui me stresse à chaque fois, c'est voilà, les routes, elles ont un dénivelé qui est pas fameux. Je comprends pas. Ça va avec le sujet d'hier. Les routes en France, c'est une catastrophe. Il n'y a rien d'entretenu. Pour rouler sur des passages à niveau, c'est une vraie galère. Et malheureusement, il y a encore un accident. Vous dites que c'est pas fréquent, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même... On en entend souvent parler dans le monde du convoi exceptionnel. Il y a eu du côté d'Ambérieu-en-Bugey il y a quelques années. Il y a eu aussi un monsieur, une voiture pilote, parce que pour mesurer le caténaire, il s'est fait électrifier. Enfin, voilà, il y a...
Ça veut dire que vous avez quand même des grandes inquiétudes, des moments où vous avez peur, quoi, Raph.
Bah, puis même maintenant, c'est sur la route tous les jours, parce qu'en fait, les gens sont devenus tellement fous en voiture. Mmh. Moi, l'autre jour, on levait la remorque pour passer un passage à niveau. Les voitures, elles doublent quand même sur le passage à niveau juste avant, elles se croisent, du coup ça passe pas, donc ça se bloque au milieu des voies, les gens sont complètement tarés. Hein.
Merci beaucoup Raph pour votre témoignage. Raph qui nous appelait donc de Mâcon, conducteur de convoi exceptionnel. Il est 8h23. Dans un instant, on s'était effectivement couché hier avec cette inquiétude, ces mots de Donald Trump qui disait qu'il allait détruire littéralement la civilisation iranienne. Ce matin, c'est le cessez-le-feu, 15 jours temporaire, sous quelles conditions, comment est-on passé de ce paroxysme hier à cette paix fragile ce matin? Le général Jean-Paul Paloméros est mon invité dans un instant sur RMC BFM TV. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
Une baisse d'environ 5 à 10 centimes très rapidement dans les stations-service, c'est ce que prédisent plusieurs distributeurs et économistes. Après, avec le passage du baril de pétrole sous les $100, le gaz européen lui plonge de 20% ce matin. Après cette annonce de Donald Trump, un cessez-le-feu de 2 semaines en Iran. En contrepartie, Téhéran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz. Des discussions entre les deux pays doivent commencer après-demain au Pakistan. La fin d'un calvaire de près de 4 ans pour Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux otages français doivent atterrir dans moins d'une demi-heure à Paris. Le régime les avait condamnés pour espionnage. Et puis un mot de la météo, un temps estival, soleil pour tout le monde et de la chaleur de 18 degrés à Nice cet après-midi jusqu'à 29 degrés à Limoges.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Général Paloméros. Jean-Paul Paloméros, vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN. On s'est couché hier soir avec ce scénario quasiment d'un basculement dans une troisième guerre mondiale. Et on se lève ce matin avec une annonce de cessez-le-feu, avec des expressions de Donald Trump d'une victoire, je cite, totale et complète. Un grand jour pour la paix dans le monde. 15 jours d'un cessez-le-feu fragile, on imagine, mais je voudrais d'abord essayer de comprendre ce qu'il s'est joué cette nuit.
On sait que, on avait tous en tête l'idée que Donald Trump, dont on n'avait pas bien compris la raison de rentrer finalement dans ce conflit maintenant. Donc, on s'attendait qu'à un moment ou à un autre, effectivement, il veuille en sortir, le temps presse. Pour différentes raisons de politique interne et en particulier, et puis évidemment les cours du pétrole, le stock exchange, tout ça, on sait qu'il pilote avec ça, comme c'est son tableau de bord à lui. Mais on pensait, honnêtement, on peut pas dire qu'on avait prévu ce qui allait se passer, c'est pas vrai, mais on pensait qu'il allait mettre un coup, qu'il allait escalader pour désescalader, comme on le dit fréquemment.
En fait, il a escaladé verbalement. Il a menacé d'escalader pour désescalader.
Certains diront que voilà, il a associé le verbe et il est allé tellement loin que ça a fait peur. Je crois que on se situe dans une partie d'échec et Dieu sait si les Iraniens sont bons en échec. Ils ont la main. Ils ont perdu des pièces, même peut-être des pièces majeures, mais c'est eux qui tiennent la main.
C'est eux qui tiennent la main ce matin, c'est ça ce que vous nous dites, Général.
Regardez, un exemple très concret, le détroit d'Ormuz. Avant cette guerre, on en parlait, bien sûr, que c'était un nœud, je dirais, névralgique, un nœud central et existentiel pour cette région. Mais la circulation dans le détroit d'Ormuz était réglée par le droit international et ça marchait. Et aujourd'hui, une partie des négociations va reposer sur le fait que les Iraniens gardent une sorte de contrôle, un péage sur le détroit d'Ormuz. Donc, au moins, dans ce domaine-là, ils auraient gagné.
La situation est pire dans ces cas-là, évidemment, qu'elle ne l'était avant. Ou en tout cas, elle est plutôt à l'avantage de l'Iran ce matin.
Ils ont saisi eux aussi une pièce. Et ça va être très difficile de leur faire rendre. Pourquoi ? Parce que la coalition, aussi forte soit-elle, ne les a pas amenés à récipiscence. Et ce qui veut dire que l'Iran affaibli, enfin le régime islamique, plus exactement la République islamique affaiblie, sort en fin de compte dans son statut de puissance régionale renforcée. Elle fait peur à ses voisins avec sa dissuasion conventionnelle qui a très bien fonctionné, les missiles balistiques soutenus par les drones, et ils sont toujours là. D'ailleurs, il y a une semaine, on évaluait que la moitié du stock, ça vaut ce que ça vaut, hein, ces évaluations, il faudrait pouvoir aller dedans pour, à l'intérieur, mais 50% du stock serait encore là. Et ils en reconstruiront. Et ils vont profiter du tempo pour en reconstruire. Donc pour moi, c'est eux qui ont la main. On ne peut que se satisfaire qu'il y ait un semblant de paix pour les Iraniens. Mais quand je dis les Iraniens, pour le peuple iranien, au bout du compte, ça sera une défaite aussi.
Si le pouvoir en ressort quasi renforcé, on va y revenir. Au fond, on a posé le décor avec vous, général. D'ailleurs, vous parliez de cette question de la coalition. Alors, il y a évidemment les deux, Israël et les États-Unis, mais il y a aussi autour la question des pays du Golfe d'un côté, la question des membres de l'OTAN de l'autre. Quel rôle aussi pour la France, qui avait dit qu'elle jouerait un rôle une fois que le détroit d'Ormuz pourrait être au moins en partie sécurisé. On verra d'ailleurs, on sera en direct depuis l'Élysée dès que le Conseil de défense commencera. On ira bien sûr en direct voir ce qu'il s'y joue parce qu'il est 8h33 et qu'à 8h30 devait commencer ce Conseil de défense qui a été réuni en urgence, annoncé hier soir par le président Macron. Quel rôle évidemment pour la France. Vous disiez, au fond, sur le plan de l'arsenal. Prenons d'abord le temps de savoir ce qui, depuis 40 jours maintenant, a été détruit, affaibli ou renforcé. Vous parlez d'une guerre conventionnelle. Il y a eu des missiles, il y a eu des drones, il y a eu de nouvelles armes qui sont apparues. Est-ce qu'on peut d'abord, penser que tout cela va se taire ce matin? Est-ce qu'effectivement, on va retrouver une forme presque, j'allais dire, de silence palpable? Les fusils s'arrêtent, les missiles s'arrêtent?
Alors, il y a au moins une partie de la région pour laquelle les fusils ne vont pas s'arrêter, et bien malheureusement, c'est pour le Liban. On a bien compris que, et ça on s'en doutait, hein, que les Américains on laisse la main aux Israéliens, qui sont dans leur opération, qu'on pourrait qualifier d'opération de sécurité interne, si je puis dire, à la frontière.
Vis-à-vis du Hezbollah.
Donc ça s'arrête pas. Donc l'opération continue et le Liban va continuer à souffrir. Qu'en adviendra-t-il du Hezbollah? Pourquoi les Iraniens se priveraient de continuer à soutenir le Hezbollah? Finalement, on va pas faire la guerre pour ça. On va pas relancer toutes ces opérations pour ça. Les Israéliens traiteront le Hezbollah à leur manière, si je puis dire. Premier élément. Deuxième élément. Les pays du Golfe sortent affaiblis de cette phase-là et il va falloir qu'ils se reconstruisent. Certains disent que, par exemple, au plan pratique, ça prendrait 3 ans à peu près au minimum pour reconstruire les infrastructures qui permettent d'exploiter les gisements de gaz du Qatar. Bon.
Qu'ils se reconstruisent, je m'arrête un instant là-dessus. Il y a le matériel, mais il y a presque, j'allais dire, le moral.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, au fond, vous étiez mon invité il y a quelques jours, on avait cette expression. Est-ce que Dubaï ne sera au fond plus jamais Dubaï, au sens symbolique du terme? C'est-à-dire que ce qu'ils apportaient comme image dans le monde, ce qu'ils avaient construit même comme image symbolique, elle est désormais, j'allais dire, à tout jamais perdue. C'est-à-dire que cette idée qu'on peut être hors des conflits du monde, exactement, un espace de profit, ça, c'est brisé.
En toute logique, effectivement, les pays du Golfe, ils ont des leçons stratégiques à tirer. Alors, soit ils le font, soit ils imaginent que le monde va continuer, va reprendre comme avant. Je pense que ça serait une erreur, parce qu'au premier coup de vent mauvais, les Iraniens qui auront reconstruit leur pays, ils ont perdu, mettons, une année de PIB. Alors, c'est gros, hein, c'est lourd. La population va en souffrir, bien entendu, mais en attendant, les ressources, ils les ont. Souvenons-nous toujours que l'Iran est un pays riche, Il a les ressources. Il a les ressources pour construire, il a les ressources pour exporter, il a les ressources cruciales, vitales pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Les ressources pétrolifières, gazières, c'est une mine d'or, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ils se reconstruiront. Ils ont des amis.
Mais est-ce que ça veut dire, au fond, qu'on a basculé dans un cycle de guerre et de paix qui alterne au gré de la reconstruction de l'Iran? Il y avait eu la guerre des 12 jours, qui avait affaibli, mais pas suffisamment, semble-t-il. Il y a eu à nouveau celle-ci, qui n'est visiblement, évidemment, pas terminée. Mais est-ce qu'on est dans une sorte de balancier où, au fur et à mesure des reconstructions, il y aura à nouveau des frappes, puis ça se reconstruira, puis des frappes? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de guerre alternative?
Qui aura le courage et la volonté demain de s'en prendre à l'Iran? C'est, pour moi, c'est ça la question. À partir du moment où l'Iran, enfin la République islamique, soyons clairs, a fait cette démonstration de force avec sa dissuasion conventionnelle, à la limite, elle n'a pas besoin du nucléaire aujourd'hui. Elle pèse sur la région avec cette capacité à les frapper. C'est aussi parce que les pays du Golfe sont faibles. Évidemment, tout ça, c'est un rapport de force. Et ça va prendre du temps. S'ils le souhaitent, s'ils le veulent, pour qu'ils se reconstruisent, le feront-ils ensemble d'ailleurs? Ils ont des vraies questions à se poser.
Au fond, si les États-Unis, une fois qu'ils y ont été, n'en sortaient pas véritablement victorieux, oui, par principe, ce serait une victoire de l'Iran. Et une victoire à long terme.
J'ai toujours dit, depuis le début, vous m'avez entendu, il n'y a pas de match nul. Pas possible. Il y aura un vainqueur. Mais pour l'instant, désolé de le dire, le cessez-le-feu, personne ne peut cracher sur un cessez-le-feu. C'est des vies humaines qui sont en jeu, bien sûr, on comprend. C'est sensible. Et puis même nous, on y est sensible. Personne n'a envie qu'il y ait une escalade telle qu'on puisse même plus l'interrompre. C'était ça un peu le risque qu'on voyait se pointer. Et d'un autre côté, l'Iran est renforcé. Le régime, alors, on peut faire des ronds de jambes et puis dire on a changé de régime, tu parles. On a changé des hommes et peut-être qu'ils sont encore plus féroces que ceux qui étaient avant. Il y avait le régime des Mollahs, maintenant on est sous le régime des Pazaran et on sait ce que ça veut dire. Et le peuple iranien va le savoir encore plus. Donc il doit y avoir à la fois du soulagement dans le peuple iranien en se disant on va peut-être pouvoir reprendre une vie, mais ça va être une vie terrible et ça va être une vie sous le joug de ce pouvoir qui sortira renforcé. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Après, est-ce que par la négociation, par d'autres moyens, on pourra faire avancer les choses? Ce qui est certain, c'est que la plus grande coalition qu'on ait pu assembler, enfin, je parle pas des opérations de la guerre en Irak, mais quand même une coalition qui a du poids avec les États-Unis, Israël, n'aura pas fait plier sérieusement et définitivement le régime, je ne peux qu'en conclure que le régime s'en sort renforcé.
Et je me souviens qu'au premier jour de la guerre, général Palomeros, vous disiez de votre côté que cette guerre n'était pas souhaitable, mais qu'une fois qu'elle avait été enclenchée, le pire serait qu'elle n'aboutisse pas. Est-ce qu'on est dans ce moment-là?
Malheureusement, oui, je ne veux pas doucher les espoirs, mais je le crois sur le fond, au niveau stratégique et sur le long terme, on peut dire oui, c'est une sorte d'échec parce que tout le monde a peur, parce que la région a peur, parce que l'Iran impose quelque part sa vision et que même elle ose revendiquer le détroit d'Hormuz. Vous voyez, on sort d'une période de 5 semaines quand même de guerre intense. Ben non, les Iraniens sont toujours là en disant ben écoutez, le détroit d'Hormuz finalement c'est chez nous parce que
parmi les raisons. Points, les 10 points, alors tout cela n'est pas officiellement sur la table, mais ce que l'on comprend, c'est que l'Iran est arrivé avec 10 points, les États-Unis avec 15 points, qui seraient mis à la discussion. Aucun de ces points ne sont à ce stade acceptés. Mais voilà les demandes des uns et des autres. Et du côté de l'Iran, ils disent donc accepter de rouvrir le détroit d'Hormuz, mais en imposant des frais, en quelque sorte de péage, comme vous disiez, 2 millions de dollars par navire. L'Iran partagerait ses frais avec Oman et utiliserait cet argent notamment pour se reconstruire. Mais ils demandent également la levée des sanctions américaines et la fin de tous les combats régionaux. La question, c'est évidemment aussi le nucléaire, avec cet uranium enrichi dont on a réalisé à nouveau il y a quelques jours que l'Iran n'y avait jamais véritablement renoncé et continuait à avoir un uranium suffisamment enrichi pour pouvoir à un moment ou à un autre l'obtenir. Mais au fond, ce que vous dites ce matin, c'est que c'est même plus la question. C'était censé être un des buts de guerre de Donald Trump.
On a compris que c'était ça, parce que personne n'a vraiment compris
les buts de guerre à proprement parler.
Cette guerre à ce moment-là, il y a eu le moment, et sur le fond, de savoir quelle était vraiment sa conviction sur l'avenir du Moyen-Orient et le rôle que l'Iran devait jouer et l'avenir de la population. Ça, on a compris assez vite que c'était vraiment pas son souci, même s'il l'avait affiché initialement et qu'il leur avait donné quelques espoirs.
Il parlait d'affaiblir le régime.
Oui, mais la seule manière d'affaiblir durablement le régime, c'était de le priver des outils qui lui permettent à la fois de peser sur son peuple, mais surtout de peser à l'extérieur. Aujourd'hui, j'allais dire, le régime islamique, il est en train de se dire, on a passé le plus dur. Bon, on va négocier, mais ils sont très forts en négociation, les 10 points, les 15 points. Oui, ils vont céder peut-être quelque chose sur le contrôle du nucléaire, comme je le disais tout à l'heure. Ont-ils vraiment besoin du nucléaire pour peser dans la région? En tout cas, pas dans l'immédiat.
Qui va s'assurer que ce cessez-le-feu est bel et bien respecté? Aurons-nous, nous autres, un rôle? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'on le joue, ce rôle?
En toute logique, oui, parce que c'est un peu ce qu'on a affiché, d'ailleurs. C'est ce qu'avait dit le président. Et je dois avouer que, sans prendre parti, mais le rôle de la France, finalement, a joué, la France a joué son rôle. Elle a protégé autant que faire elle pouvait, mais il lui manquait aussi des moyens pour aller plus loin. Donc ça fait partie de la loi de programmation militaire, mais a joué son rôle.
Qui va annoncer aujourd'hui justement un renforcement du budget de l'armée?
Il faut pas qu'on parte du principe que parce qu'il y a un cessez-le-feu au Moyen-Orient, le monde est plus pacifique. Je dirais que c'est plutôt un peu l'inverse. Si le régime en Iran tombait, et on commence à s'en douter un peu quand même, voyons, le peuple iranien a
imaginons,
aussi,
espérons, tirons ce fil.
Si le régime iranien tombait, là, on aurait vraiment un espoir de paix, de construction. C'est pas le cas. On n'a pas eu peut-être le courage, la profondeur, la patience. Je crois que le problème de la patience, c'est la clé. J'avais parlé de patience stratégique. Une campagne de cette nature, si vous voulez, j'avais fait souvent le parallèle avec la Libye. Toute comparaison n'est pas raison, mais c'est au moins 6 mois, 1 an. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc, on pouvait se douter qu'en quelques semaines, on n'arriverait pas au bout d'un régime qui s'est construit au fil des années et qui se renforce et qui va trouver dans ses racines. Regardez, les opposants vont être... Là, malheureusement, on annonce des mauvaises nouvelles. Les mesures de rétorsion peuvent être terribles.
Contre la population.
Contre la population, évidemment.
Général Palomeros, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, annonce se rendre dans les pays du Golfe. Emmanuel Macron, et c'est ce qu'on nous fait savoir à l'instant, devrait s'exprimer dans les prochaines minutes. Ce sera évidemment à vivre en direct pour ceux qui regardent BFM TV ou à entendre sur RMC. Il y aura bien sûr des conséquences, des options à prendre. Une question encore sur notre propre arsenal. Le Charles de Gaulle, on le sait, est dans la Méditerranée orientale. Il y a aussi nos frégates. Quelles peuvent être les actions, et là j'en appelle à vous sur le plan militaire, qui permettent effectivement de sécuriser? C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est de dire le détroit d'Ormuz est ouvert, et il y en a une autre, c'est d'oser y aller.
Si on croit au cessez-le-feu et au fait que les partis ont baissé les armes, c'est le moment d'y aller. C'est un peu ce qu'avait dit le président. On s'organise pour lorsque il y aura une désescalade. Bon, a priori, on y est. Souhaitons-le. Un cessez-le-feu reste un cessez-le-feu malgré tout.
Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reste fragile.
Ça n'est pas
la paix.
Bien sûr que ça reste fragile. D'un autre côté, à partir du moment où Donald Trump saisit cette occasion pour désescalader et pour afficher, évidemment, il va afficher une victoire. Il ne peut pas faire autrement. On se demande laquelle, mais il va afficher une victoire. Il va dire que l'Iran est rejeté à l'âge de pierre. Enfin, il l'a déjà dit, ça. Nous, on sait que c'est faux. On sait que le régime se reconstruira. On sait que l'Iran a des ressources. Et on sait qu'elle va ressortir comme une puissance régionale majeure.
Ce matin, je vous sens au minimum sceptique, peut-être même, général, assez pessimiste.
Ben oui, puisqu'on n'a pas su faire rendre gorge à un régime dictatorial qui est qui écrasait son peuple, parce que on n'a pas pu, et ça prouvait d'ailleurs toute ça, la profondeur de son dispositif. Ils avaient bien compris quelles étaient les armes de dissuasion moderne, en quelque sorte. Ils savaient aussi la faiblesse.
L'arme économique.
Et bien sûr, économique, armes balistiques, pour bien faire peser cette pression sur des pays qu'ils savaient faibles, faibles en termes de puissance militaire, et totalement dépendants, en particulier des Américains, en partie de nous, mais de manière très faible, mais en particulier des Américains. Donc, on sort de là quand même, on est un peu KO, on espère que l'activité va repartir, mais ça c'est pour tout le monde, pour nos concitoyens, mais le monde de demain ne sera pas comme celui d'hier, et il faut qu'on en tire toutes les conséquences.
Et ce sera d'ailleurs normalement chose faite dès aujourd'hui, espérons-le. En tout cas, sur notamment la question effectivement militaire, puisque la loi de programmation devrait augmenter le budget militaire. Et d'ailleurs, la ministre des Armées sera mon invitée demain matin à ce même micro. Merci, général Paloméros, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47. Vous le voyez d'ailleurs sur les images de BFM TV. Ce conseil de défense qui vient de s'ouvrir donc à l'Élysée, qui devrait dans quelques instants donner aussi lieu à la prise de parole du président Emmanuel Macron qui devrait s'exprimer. C'est à suivre bien sûr en direct. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité était le général Jean-Paul Paloméros qui est resté avec nous. Rebonjour, général.
Rebonjour.
Donald Trump a donc annoncé suspendre les bombardements en Iran pour 2 semaines. Emmanuel Macron souhaitait réagir, monsieur le président. Vos lunettes.
Ben oui, les lunettes magiques, souvenez-vous. Je mets les lunettes de soleil. Trump renonce au Groenland. Ben là, pareil. Il a suffi que je remette mes lunettes de soleil cette nuit pour qu'il renonce à vitrifier l'Iran. Hein. Vous, pareil, Apolline. J'ai vu les audiences, il a suffi que vous mettiez les lunettes de soleil ce week-end pour vitrifier Pascal Praud. Hein,
je crois que vous êtes sensible. Le recul de Trump, c'est grâce à la médiation du Pakistan quand même, plus qu'à vos lunettes.
Oui, bah c'était pas gagné, surtout en période de Pâques, parce que je le connais, mon Donald, à Pakistan. Hein. Oui, pardon, je sais, mais je suis tellement heureux qu'on ait évité la Troisième Guerre mondiale, je suis léger, j'ai envie de faire des jeux de mots. Hein. C'est pas le général Caliméros qui me contourne.
Bon, quelle est la stratégie de la France dans ce conflit?
Ah ben la stratégie de la France, mais j'en sais rien, mon petit lapin, moi.
Non,
bah,
quand même. Comment ça, vous n'en savez rien?
Mais ça sert à rien de faire des stratégies. Donald, il dit un truc, on passe des heures à bosser là-dessus, puis Donald, il change d'avis, il dit un autre truc et on doit foutre tout à la poubelle. Ça sert à rien d'essayer de prévoir ce qu'il va dire. Là, mes généraux, ils servent à rien. Non, mon conseil de défense aujourd'hui, général français, c'est un emploi fictif. En ce moment, je fais des conseils de défense avec 15 Pénélope Fillon.
Oh non. Bon, bah merci, monsieur le président, en tout cas. Sans plus attendre, on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les titres de l'actualité.
Salut à vous, bonjour mon général, général Paloméros. Comme quoi, avec cette guerre en Iran, il n'y a pas que les compagnies pétroliennes qui font du chiffre, apparemment, les experts militaires aussi. Allez, c'est parti pour les titres. Ouf, ça y est, la situation est débloquée. Fin de la pénurie. En effet, Céline Dion a annoncé 6 nouvelles dates de concert, 240 000 places supplémentaires vont être mises en vente, pas de pénurie. Par contre, ça coince au niveau des tarifs. Du coup, après avoir demandé un chèque carburant, les Français demandent au gouvernement une aide pour faire face à l'envolée du prix des places de concert pour Céline. Et puis Céline Dion toujours, Céline qui inspire aussi l'État, puisque le gouvernement envisage d'organiser un tirage au sort pour savoir quels Français auront la chance d'assister au formidable spectacle, de se voir en train de remplir son propre réservoir dans une station service.
Oh, c'est beau, merci Marco. Tout de suite, on retrouve notre expert militaire, Didier François. Bonjour Didier.
Bonjour, alors je me présente, Didier François. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon truc à moi, c'est tous les endroits où ça bombarde, où ça mitraille, ça explose. Donc c'est vrai que ces derniers temps, c'est vrai que j'ai des grosses journées.
Didier, c'est une bonne nouvelle, c'est le feu en Iran.
Ah ouais, alors ça c'est une super nouvelle. Du coup, j'ai posé 15 jours de RTT pour souffler un peu. Là.
Ah ouais, à ce point-là?
Ouais, parce que ça fait 35 jours que je suis enfermé dans les locaux de BFM. Gérald Pellistrandi, pareil avec moi. Lui, il est plus organisé que moi parce qu'il a une tente quechua dans les couloirs.
Ah ouais.
Il a un réchaud, il a juste oublié son peigne. Ouais, là, Calimero, ce qui rigole, c'est pas très corporate entre générations, c'est pas très sympa.
Vous avez pas besoin de peigne, hein.
Général, tu es plus drôle que moi. Général du rire, ça y est, non, mais. Alors, bon, moi, si tu veux, j'ai été formé parce que j'ai eu la chance d'être otage en Syrie il y a 10 ans. Donc, être enfermé dans le locaux de BFM, pour moi, c'était formateur, tu vois. Donc, ça m'a bien aidé parce que consultant à BFM, c'est pire qu'être otage de l'État islamique, hein, Ben, Maxime, il le sait, Paloméros. Maxime Switek, il te lâche pas. Il veut absolument te faire parler, même si tu sais rien. Il te garde jusqu'à 2h du matin, là, cette nuit. 2h du matin, avec tes projets dans la gueule. Il te pose des questions. Il te repose des questions. Il te repose des questions toutes les demi-heures. C'est de la torture psychologique. J'ai vraiment besoin de couper.
Ah bah du coup, vous allez partir peut-être un petit peu, Didier.
Ouais, là, il faut absolument que j'aille m'aérer. Là, je pense que je vais partir à Mariupol ou... Ou Beyrouth, j'hésite. Faut que je vais demander au conseil au général. Ouais, mais histoire que la coupure soit pas trop brutale, quoi.
C'est sûr, merci beaucoup, Didier. Donald Trump est avec nous. Hi, Mr. President.
J'ai gagné.
Oui, alors bon, bah, l'Iran a donc accepté de rouvrir le détroit d'Ormuz en échange d'un cessez-le-feu.
Non, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Je vais quand même bombarder l'Iran.
Ah bah non, ça marche pas. Vous avez annoncé un cessez-le-feu quand même, monsieur le président.
Oui, mais ça compte pas parce que j'avais pas dit Jacadi. Parce que dans mes objectifs, je t'explique, Pauline, dans mes objectifs, il faut au moins que je bombarde un pont.
Mais quel pont?
N'importe lequel, le pont.
Ah bon?
Oui, parce que j'avais déjà les filles avec Epstein. Là, j'ai eu Maduro. Et là, il me faut le pont, t'as compris?
Non, j'ai pas compris.
Mais comme ça, j'aurai la totale. Le pont, la pute et le truand.
Merci, monsieur Trump.
Ouais, c'est plus fort que Paloméros avec le coup du
crâne.
Du jeu de mots.
Merci, monsieur Trump. Allez, aujourd'hui, c'est la sortie de Cocorico 2, un film où Christian Clavier joue de nouveau le rôle d'un riche bourgeois.
Non mais écoutez, arrêtez. Quand on vous entend, on a l'impression que je joue toujours le même rôle. Mais, mais dire ça, c'est dingue.
Non, c'est quand même une critique qui revient souvent.
Mais pas du tout, je peux pas vous laisser dire ça. Donc Cocorico, c'est un personnage de grand bourgeois de campagne qui vote RPR.
Alors
que dans Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, c'est un riche propriétaire terrien qui vote Laurent Wauquiez.
Ah,
non, ça n'a rien à voir, Romain de Valère. C'est comme Marshall et Truchot, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est très à droite et l'autre pas du tout à gauche. Je vous laisse deviner qui est qui. Je parle bien sûr de la position de leur siège dans le studio, pas de leur style politique, bien sûr. Ils s'inquiètent.
Il est là.
Bon Marshall, détendez-vous. Allez-y, Marshall, faites votre boulot. C'est à vous d'enchaîner. Okay.
Merci, Général Paloméros, d'être resté avec nous. Et merci, bien sûr, Nicolas. Face à Canteloup, tous les jours à 8h50. À tout moment en podcast, Alain Marchal est donc rentré dans ce studio. Quel est le programme?
Et je vais retrouver Olivier Truchot dans un instant, bien évidemment. Il sera assis à ma droite. De quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules? Est-ce que vous êtes rassuré par ce qui se passe au Moyen-Orient? Est-ce que vous attendez une baisse rapide du prix des carburants? On va évoquer aussi les projections du ministère de l'Éducation nationale. La France va perdre 15% de ses élèves d'ici 9 ans. Fermeture de classe inévitable. 32-16 pour réagir avec les GG, surtout un invité exceptionnel. On a Charles Alloncle qui vient dans les grandes gueules, le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. La commission se termine aujourd'hui et il a choisi les grandes gueules pour venir nous dire les conclusions qu'il en tire.